Voigny. Cette semaine, Virginie Bloch-Lainé rencontre Xavier Emmanuelli. Ce soir, une lignée de médecins.
Bonsoir Xavier Emmanuelli.
Bonsoir.
Vous avez 79 ans, vous avez été médecin, vous êtes encore médecin mais vous n'exercez plus. Vous êtes encore habité par votre métier, votre vocation. D'ailleurs, cette semaine, nous nous rencontrons au SAMU de Paris. Vous avez travaillé au SAMU et c'est au SAMU de Paris que vous avez votre bureau dans une partie de l'hôpital Necker. Votre nom et votre visage sont attachés, je pense, pour les auditeurs au SAMU social que vous créez à Paris en 1993. Vous nous expliquerez plus particulièrement jeudi soir comment vous avez créé le SAMU social. Mais toute cette semaine, avec vous, il sera question des exclus, des vagabonds, des alcooliques, des toxicomanes, des enfants des rues, des gens de peu, parce que vous avez toujours lié exercice de la médecine et engagement social, humanitaire, que ce soit en participant à la création de MSF ou en étant médecin à la prison de Fleury-Mérogis. Mais avant de commencer donc cette série d'entretiens, j'aimerais vous demander pourquoi vous aimez être ici au SAMU, pourquoi vous aimez l'urgence, Xavier Emmanuelli.
L'urgence, c'est des gestes médicaux qui payent tout de suite. Par exemple, quelqu'un a une crise de colique néphrétique, il se tord de douleur comme un ver par terre, tellement il a mal. Vous arrivez avec votre injection et vous le sortez immédiatement. C'est une résurrection des griffes de la douleur. Il est tellement reconnaissant, lui qui était dans les affres de cette douleur effroyable, qu'il vous lécherait la main de reconnaissance. Et puis après, vous n'entendez plus parler de lui. Comme ça, vous voyez au cours de votre exercice, des gens par exemple en édème aigu du poumon, qui est vraiment à la porte de la mort, vous faites les quelques gestes, vous ne le guérissez pas, mais vous le sortez de sa crise, et c'est une résurrection. L'urgence vous permet ça. Mon père n'était pas un urgentiste, c'était un médecin généraliste. Lui, il travaillait sur le long terme, sur une relation. Il connaissait l'urgence, mais ne s'intéressait pas plus que ça. C'était les gens et leur maladie. Pourquoi ils faisaient cette maladie? Et comment ils s'en sortaient à long terme. Voilà, l'urgence, ça vous permet, en quelque sorte, si je devais faire une allégorie, vous êtes un soldat, et vous combattez, non seulement au plan métaphysique, mais au plan physique, vous combattez la mort, et sur ce coup, vous gagnez. Et vous vous rendez compte, la puissance pour un docteur.
Et ne plus voir le patient, ne plus le revoir.
Disons que, si je résumais, j'ai sauvé des centaines de vies. J'ai pas de mérite puisque je savais faire et j'étais payé pour ça. Mais je n'ai jamais rencontré qui que ce soit. Et eux, alors que j'étais l'homme le plus important de leur vie, ne savent même pas que j'ai existé. Donc, si vous voulez, quand vous êtes jeune, un jeune médecin, vous êtes dans la puissance, vous êtes un cow-boy, vous êtes un surhomme. Mais c'est en vieillissant que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai jamais rencontré personne alors que j'étais super important pour eux. Il y a une escroquerie dans cette affaire. J'ai rencontré des mécaniques. Mais la démarche de la vie, de la mort, de la pathologie, je ne l'ai pas vue. Et ça m'a beaucoup manqué lorsque j'ai pris conscience de ça, que c'était un faux-semblant, si vous voulez. C'était un théâtre d'ombre. Vous êtes médecin, mais sans être médecin. Ici au SAMU, quand vous êtes appelé sur un gros carton, si j'ose dire, quand deux voitures se rencontrent, mais pardonnez-moi de ce jargon, quand sur une grosse affaire, si les gens se débattent, dans le fond vous arrangez pour qu'ils aient plus mal, pour qu'ils ne se débattent pas, vous les faites respirer avec une machine, donc vous accordez leur respiration, la machine, le cœur pareil, vous accordez et vous surveillez la mécanique extérieure avec la mécanique intérieure. Vous avez transformé votre client en mécanique. Ça, c'est le cauchemar de Descartes, l'animal-machine. Et le cauchemar d'un médecin du 18e siècle. Julien Lametti, qui a fait sa thèse, qui s'appelle « L'homme-machine ». Ça a même épouvanté Diderot, toutes les belles âmes. Ben oui, il avait été jusqu'au bout. Et on en est là. On est efficace sur l'homme-machine. Et c'est ça le contresens, on en parlera, qu'on a avec l'hôpital. On s'occupe des hommes en tant qu'ils sont des mécaniques et on oublie la finalité de ces mécaniques.
Alors, Xavier Emmanueli, on va remonter dans le temps. Vous avez un nom corse.
Oui.
Oui. Vos deux parents étaient corses.
Oui, c'est la famille Tomasini du côté de ma mère Propriano, famille Emmanueli de Castaniche du côté de Corte Bastia. Et c'est une espèce de culture non seulement insulaire, mais latine. Quand je vais en Italie, je me sens plus proche.
Vous vous retrouvez chez vous, oui.
Oui.
Que qu'à Paris. Vous vous sentez plus proche de vos...
Des postures, de des attitudes, des manières de penser. Je dis pas que... C'est latin, quoi. Latin et... Bon.
Vos deux parents étaient d'un même milieu social ?
Non. Ma mère se prenait pour quelqu'un, puisqu'elle était fille du directeur de l'école de Propriano. Donc c'est quand même ça. Ça pose les gens. Ça. Elle était institutrice, elle est devenue institutrice avec un père puissant comme ça. Mon père, lui, était le fils d'une veuve de guerre. Parce que comme beaucoup de petits Corses, son papa, à lui, était mort en 1918, le pauvre. C'est-à-dire qu'elle a disparu après la fin de la guerre. Il avait été blessé dans les derniers temps de la guerre, alors qu'il avait été, il avait échappé. C'était... à toutes les offensives. Il a été blessé, puis il est mort plus tard. C'est pour ça qu'il n'a même pas été reconnu comme combattant. Et il a fallu... Bon, bref. Et sa mère, ma grand-mère, que j'ai connue, a eu du mal à élever, était pupille de la nation. Et elle a eu une bourse. Elle faisait couture, ménage pour l'élever. Donc vous voyez, des milieux différents. Mais ma mère a toujours montré... qu'elle sortait quand même d'un milieu plus cultivé. je dis ça pour me marrer, parce que c'était juste des micro-allusions.
Vous les avez connus, ils étaient amoureux, vous les avez connus toujours amoureux ?
Oui, amoureux. Ils s'aimaient, puis je ne vois pas comment ils auraient pu faire autrement. Bien sûr qu'il y avait des crises. Alors, ils s'insultaient, ils se disputaient en Corse. C'était là. Il parlait français avec un accent roulant les airs et tout ça, c'était merveilleux. Mais quand ils n'étaient pas d'accord, ils s'insultaient. Et puis il y avait les mots qui sont. C'est pas les mêmes patois tout à fait, alors c'était ravissant. Après les crises, évidemment, c'est très napolitain. Après les crises, ben après ils étaient.
C'est encore mieux.
Oui, mais il faut dire les choses. Après, j'ai rencontré d'autres cultures. Protestantes, par exemple. On ne dit rien. On ne dit rien. Il n'y a pas de mots. Il y a de la rancœur. Mais après les tempêtes, on dit plein de mots, on crie, on ouvre les fenêtres pour que tout le monde sache. Mais après, on s'aime à nouveau, quoi. Les mots ont été dits. Et j'ai bien aimé toute ma vie quand les choses sont dites.
Votre mère était institutrice, Xavier Emmanueli. Votre père a commencé par être instituteur.
Ils se sont connus à l'école normale d'instituteur. Parce qu'en Corse, il n'y avait pas de débouché. Il n'y a pas de fac.
Donc, ils se sont connus en quelle année à peu près ?
Dans les années 30, allez.
Oui, oui.
Je sais que mon père, il a fait la cour à ma maman. Il avait un copain à Ajaccio qui s'appelait Tintin. Il dit, écoute, on va aller sous ses fenêtres, tu lui chantes une belle voix, tu lui chantes... vous savez, quand on faisait des balades sous les fenêtres de sa copine... Tintin, c'était Tino Rossi. Ça doit vous dire quelque chose avec sa voix de velours. Et donc, elle a été courtisée par la voix de Tino Rossi. C'est pas mal, quand même. Oui. Et donc, après, ils se sont mariés. Et ils ont fait des postes d'instituteurs. Ils étaient ensemble, ils essayaient d'être ensemble. Ils ont été nommés ici ou là, dans la partie est, Vescovato. De l'île, mais ils révèlent leur vie, quoi. Puis, il y avait un père le père de ma maman, était très puissant, puis voulait échapper quand même. Et alors, comme beaucoup de Corses, comme il n'y a pas de débouchés dans l'île à l'époque, ils sont venus à Paris. J'ai retrouvé le journal intime de ma mère qui s'arrête. Demain, le début de la grande aventure. Ils allaient franchir la mer pour aller à Paris. Alors comment ils font l'immigration corse? Soit à Marseille, soit à Paris, il faut venir chez un... C'est un cousin.
Un parent.
Un parent.
Un proche, oui.
Et puis à partir de là, débrouillez-vous. Hein. Mais il faut qu'il y ait un point d'appui. Et là, ils ont commencé leur ville, les enfants sont arrivés. Et ma mère, qui avait de l'ambition, mon instituteur, c'est bien, dit, mais franchement, à Paris, elle a demandé à mon papa de s'inscrire à la Sorbonne, elle a fait de la philo. Puis c'était pas être professeur, bon, c'est bien, ma mère avait plutôt d'autres ambitions. Vous savez, il voulait changer de niveau social. Alors elle l'a inscrit en médecine. Je dis, elle l'a inscrit.
Comme une mère, comme ça. Une mère.
Mais c'est les femmes chez nous dans le monde latin. Alors après, il y avait des petits arrangements avec. Il continuait à être instituteur, puis aller à la fac. Puis quand il s'absentait trop pour les travaux pratiques, tout ça, il y avait quand même l'inspecteur d'académie qui était corse. Tous ces gens de la diaspora, ils n'avaient pas de fric. Mais pour aller au cinéma, c'était le policier de son village qui, montant la garde, faisait rentrer gratos. Donc, si vous voulez, la diaspora avait énormément d'importance. C'était un réseau affectif.
De solidarité.
Une espèce de solidarité, de l'amour de la Corse, en fait. Et je ne dis pas qu'il se faisait... C'est pas une franc-maçonnerie, quoi. C'est solidarité culturelle. Et je me rappelle, dans le cabinet de mon père, venaient aussi bien les petits paysans corses que les macros, que les. Parce qu'ils corses.
Mais sa patientèle était surtout corse?
Non. Non, mais on savait qu'il y avait médecin corse, donc tant qu'à faire.
Il était médecin généraliste? Il est devenu médecin généraliste. Là, on est à la fin des années 30. Vous êtes né en 1938.
Fin 38.
Pardon, oui.
Oui. Et lui, il arrive à être médecin. Mais c'est un médecin généraliste d'une autre race, si j'ose dire. Parce que, d'abord, c'est un type latin qui a un contact très, très facile et très chaleureux avec les gens. Il ne se prend pas la tête parce qu'il sait d'où il sort. C'est des pauvres, hein, dans le fond. Et puis, il a été instite. Donc, il a une espèce de pédagogie. Et donc, c'est un médecin chaleureux qui comprend la pathologie. Il pense que... Parce qu'il y a aussi le côté corse de la fatalité. Il y a le côté corse de la superstition. Il pense, dans le profond de lui-même, que c'est pas par hasard qu'on attrape des maladies ou des accidents. Il y a quelque chose... les destins s'écrivent ailleurs, si vous voulez. C'est nocturne.
Vous pensez la même chose, Xavier Emmanueli?
C'est bien indiscret. Bien sûr que oui. Je vous dis bien sûr que oui, seulement ça me paraît évident. Je suis... Mais pas de la même façon que lui. Moi, je suis plutôt jungien. Et donc, c'est pour ça qu'il a été médecin généraliste. Mais au fur et à mesure, à l'époque, il y avait... Des pathologies infectieuses qu'on ne guérissait pas. Il y avait de la typhoïde, il y avait la polio, c'est la grande épidémie de polio dans les années, fin des années 50, non, début des années 50. La tuberculose, je ne vous parle pas de la syphilis, tout ça qui frappait les jeunes. Et on ne pouvait pas le guérir parce qu'il n'y avait pas les antibiotiques. La streptomycine, je vous le rappelle, est arrivée en 47. La pénicilline, rappelez-vous le troisième homme, Orson Welles, à Vienne, elle est arrivée tard. Et ces médecins étaient très démunis, mais très dévoués aussi. Et donc il y avait une empathie. Et mon père, du coup, quand il était donc médecin généraliste avec les médicaments de l'époque, mais il s'est mis à faire de la médecine énergétique. Il était médecin moderne, mais aussi Il a fait des études, mais il savait faire ça, lui. Il était d'une intelligence incroyable.
Acupuncture, de l'acupuncture.
Acupuncture, oui. Homéopathie. Mm.
Puis, et vous, Xavier Emmanueli, vous pensez quoi de l'homéopathie?
Ah, mais j'en pense du bien. Il y a autre chose, les hommes sont autre chose qu'une mécanique. Je crois aux énergies. C'est ce que j'essaye d'apprendre aux gens qui vont s'occuper des personnes âgées. Eux, ils sont d'une énergie finissante. Et vous, les jeunes qui arrivez auprès de vous, êtes énergie au début. Comment ne pas avoir de malentendus? Les gens savent que vous êtes plus fort de votre vigueur et vous vampirisent d'un certain point de vue. Et vous savez bien qu'ils essayent de capter votre, d'une certaine façon la vie qu'ils sentent. Et c'est comme ça qu'on va à la maltraitance, sans le savoir. Parce qu'ils vous pompent. Je sais que les gens qui s'occupent des personnes, Alzheimer et tout, c'est pas du tout conscient, hein, c'est du fin fond de l'archaïsme de la vie qui essaye de se retenir sur la Terre. Et donc, mais je crois beaucoup à ça, qu'on a des forces, même réanimateurs. Quand les gens étaient dans le coma, je savais obscurément que celui-là, il allait s'en sortir, et celui-là, non. Vous savez, une intuition d'expérience, en fait. Il y a des micro-signes, sans doute, que vous n'arrivez pas à les comprendre, ces signes-là. Et ils sont tellement petits, évanescents, fugitifs, et que c'est ça, cette intuition que vous arrivez à faire. L'expérience vous donne cette petite connaissance. On peut se tromper. Hein.
Xavier Emmanueli, pendant la guerre, où vos parents restent à Paris?
Voilà ce qui s'est passé. Mon père, un jeune médecin, cherchait à faire des remplacements. Et donc, il va au Conseil de l'Ordre, pendant la guerre, mais c'était des voyous, le Conseil de l'Ordre, à l'époque. C'était des gens, des notables, pas très intéressants. Toujours, oui, mais celui, il va au Conseil de l'Ordre, est-ce que vous avez des remplacements à faire? Et on lui dit, il y a un juif, à la Varenne, il s'appelle le docteur Korb. Il ne peut plus exercer parce qu'il est juif. Et donc, peut-être, vous pouvez l'aider, enfin, remplacer. Alors, mon père était là, il a été voir Korb, en disant, mais oui, en effet, je ne peux plus exercer, mais, bon, vous savez, ça ne va pas durer long, plus que ça. Hein. N'empêche que il lui a présenté sa clientèle, et ils se sont bien entendus. Puis Korb, il avait mis sa famille en Suisse, il a essayé de les rejoindre. Et à la ligne de démarcation, on a fouillé, on a trouvé plusieurs cartes d'identité. Il s'est fait arrêter, il a disparu. Mais lui, mon père ne le savait pas, ça. Et il a donc fait le remplacement de Korb. Et comme il pensait qu'il allait revenir à la fin des hostilités, il a monté un cabinet à lui, à Ormesson, c'est-à-dire à... Le Conseil de l'Ordre disait qu'il faut au moins 5 km pour le cabinet secondaire. Puis il disait, d'accord, je fais le remplacement, mais un de ces quatre. Donc il a fait marcher deux cabinets à l'époque. Un qui est à la Varenne et l'autre qui était à Ormesson. C'est semi-rural, urbain-rural. Nous, on vivait plus à Ormesson, auprès de notre grand-mère. C'était les enfants à l'époque, c'était la liberté absolue. On était dans les champs. Et lui, au bout d'un moment, il a compris, il a assez vite compris ce qui se passait. Et c'est là qu'il est devenu injuste parce que il y avait la pension Zisman, dont Korb s'occupait, une dame qui s'appelait Mademoiselle Lévy, qui la faisait tourner. Et mon père commençait à comprendre. Il disait à Mlle Lévy, écoutez, ça tourne mal, il faut que vous partiez et vous planquez. Et elle disait, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, une vieille dame comme moi, je risque rien. Même que Korb lui avait dit, vous savez, j'ai été médecin, j'ai fait la guerre de 14-18, qui voulait qu'il me touche. Vous voyez, ils n'avaient pas pris la mesure. Par contre, elle avait une petite cuisinière qui s'appelait Thérèse Bemelski, qui était une petite juive polonaise, qui était sauvée en Pologne, et qu'ils employaient comme cuisinière. Et quand un jour les Allemands sont venus la pension, elle s'est sauvée, elle ne parlait pas un mot de français. Elle, elle savait ce qu'elle risquait. Donc elle est venue chez le docteur. Et le docteur, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il l'a gardée, il l'a cachée. Elle avait des enfants et s'est arrangé pour faire... Il y avait tout un réseau avec le directeur de l'école communale à Ormesson. Et il planquait dans les fermes, ils y arrivaient. Et donc, il a fait partie de ce petit réseau. C'était pas une résistance, c'était comme ça. Et un jour, ils ont été balancés, vous doutez bien. Et ma mère, qui était une femme très peureuse, ne pouvait pas aller dans un ascenseur, dans la voiture. Enfin, là, devant ces Allemands qui ont fouillé avec leurs baïonnettes, vous savez, les copeaux, parce qu'elle était cachée en dessous, c'est passé à 2 mm de son nez. Elle est restée impassible. Vous ne trouverez rien. Et ils n'ont rien trouvé, en effet. Ils n'ont pas trop insisté. Je sais, à peu près, avec ma sœur, on a vu à peu près qui a balancé, quel est le bon français qui balançait le docteur. Mais bon, toujours est-il qu'il a fait son devoir. Quand je lui ai dit, écoute, quand même, on était trois à l'époque, pas encore mon petit frère. Je lui ai dit, quand même, t'as risqué ta vie et celle de tes enfants pour ça. Il m'a regardé, il dit, monsieur l'intelligent, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il n'y avait rien d'autre à faire. Vous comprenez?
Vous avez combien de frères et sœurs, Xavier Emmanueli?
J'ai deux sœurs et un frère.
Et vous êtes tous devenus médecins?
Oui.
Tous?
Non, parce que ma sœur aînée s'est émancipée, elle a fait pharmacie.
D'accord.
Et alors, ce qui est marrant, ce que je voulais vous dire, puisque vous posez implicitement la question... Mon père, qui avait découvert la médecine à l'âge adulte, il parlait tout haut, comme ça, à table, il racontait... Parce que c'était une découverte pour lui, parce que c'est comme s'il était venu de l'extérieur, mmh. Vous savez.
Oui.
Et il racontait ses déboires, et comment il voyait... Il disait par exemple... Ah, vous savez, quand une femme est enceinte, elle a mal aux dents, parce que son fœtus lui pompe tout son calcium. Il voyait des rapports de causalité.
Mais c'est vrai?
Apparemment, oui.
Oui.
Et puis, il y avait des mots qu'il aimait, la protection de l'organisme, qu'il appelait le système réticulo-endothélial. C'est un vieux mot, ça, on ne l'emploie plus, on dit l'immunité. Mais c'est des mots magiques. Vous voyez, c'était... Pour nous, les enfants, on rêvait de ça. Un parasite, c'est un petit ver, Immunolipis nana. Des mots comme ça, pour des enfants, c'est des histoires de merveilles, de fées, de contes. Quand on était bien sage, on allait avec lui faire la visite dans sa voiture, dans les fermes, parce que c'était... Et il nous racontait, ah oui, ce débat comme ça, on était en conflit avec sa belle-mère, non, pas étonné qu'elle a fait sa crise d'asthme. Donc il faisait des rapports de causalité, il était sur deux versants. Un versant nocturne et un versant très, très moderne. Un jour, alors moi je voyais partir des fois la nuit, c'était jour et nuit, j'étais un grand fumeur. Et quand le téléphone sonnait, la nuit, c'est une urgence, c'est ce que j'aimais moi. Mais je ne pouvais pas savoir que j'allais aimer ça. Je voyais dans la nuit, il s'allume
la cendre,
cigarette.
Ouais.
Je sais que c'est le départ dans sa mission. Et nuit, maman a rêvé il s'appelait Monsieur Cohen, cheminot. Elle n'a pas rêvé de lui. Elle a rêvé que moi, je me faisais écraser par un train. Il s'est réveillé en sursaut. Elle est venue dans ma chambre. Elle dit, j'ai rêvé. Elle était là, elle m'a pris dans les bras. Moi, je me réveillais comme ça. À ce moment, le téléphone a sonné. Et on appelait... Mon père, c'était un de ces malades, un petit cheminot, qui s'était fait écraser les deux jambes. Et à ce moment-là, il avait pensé très très fort à son médecin. Et c'est elle qui l'avait intercepté, ce message de détresse, et qui a cru que c'était moi. Donc, on vivait dans ce monde magique de la Corse. Et lui, il s'arrangeait en même temps à trouver des relations mystérieuses de causalité. C'est pour ça qu'il était adoré.
Et vous, Xavier Emmanuelli, ça ne vous faisait pas peur le fait qu'il cherche toujours un rapport de causalité entre la maladie et...
Non.
Et la... Non.
Au contraire. Au contraire, qu'est-ce que font les gens de tous les jours? Ils cherchent du sens. Oui, on est une mécanique. Je crois qu'on n'est qu'une mécanique. Mais une mécanique à produire du sens. Et c'est pour ça que je suis devenu croyant. Je voulais dire, je ne suis pas un grand théologien, mais je sais que les gens aspirent à ce que leur vie veuille dire quelque chose. On est une machine à produire du sens, à recevoir du sens. Sens et amour, d'ailleurs. C'est ça dont on a besoin.
Mais quand un malade apprend qu'il a un cancer, Il n'a peut-être pas du tout envie de se demander, et puis ça sert à... C'est trop tard. Enfin, quel est le sens de ce...
À quoi servent les soins palliatifs et tout ça? C'est quand même... Alors, il y a toute une éducation à reprendre chez vous. Alors, allons-y. Non, mais en très peu de mots. Ouais. J'ai un copain qui s'appelait Salamon. C'est un cancérologue. Il dit, voilà, le cancer du poumon, c'est le grand fumeur, un cancer du poumon. Il dit, mais il faut peut-être voir dans l'autre sens. Il dit, voilà, un truc qui n'est jamais arrivé dans l'évolution, un afflux de nicotine, de goudron, enfin, etc. Comment fait l'organisme pour se défendre? Mais il crée des cellules comme ça pour capter, pour empêcher que ça diffuse et que ça tue, parce que la nicotine, ça tue. Et donc, cette espèce de cancer, c'est une réaction de défense qu'il fait, pour retarder le moment où les gens vont mourir. Et donc, faut voir le cancer du poumon comme une tentative absurde, mais une tentative de l'organisme pour ne pas mourir. Donc, si vous voulez, voyez le truc à l'envers. Il faut toujours inverser la proposition. Et ça, moi, ça m'a toujours stupéfait. Les organismes créent une défense qui conduit à la disparition. Ça a l'air absurde, mais non, c'est comme un ultime barrage.
Xavier Emmanuelli, un médecin m'a dit un jour que le symptôme est votre allié. C'est ça que c'est à peu près ce que vous expliquez, non?
Mais les malades savent très bien ce qui se passe. Mon papa, il disait toujours, bon, le mec, il a de l'eczéma. Ça me gratte, c'est moche, tout ça. Si vous allez tout faire pour l'empêcher d'avoir l'eczéma, des pommades, des comprimés, que sais-je. Ah, vous êtes content. Seulement, il va faire un ulcère à l'estomac parce que vous n'avez pas compris la démarche profonde. Vous savez, on est dans le monde du sens. On est dans le monde, heureusement d'ailleurs, on est dans le monde du symbole et du sens. Le médecin, s'il ne comprend pas qu'il est dans ce monde-là, moi, je suis un médecin avorté avec mon urgence. J'ai cherché toute ma vie à réhabiliter le sens. Quand les gens vous parlent de dignité, ben oui, moi, on ne peut pas distribuer des bons de dignité, mais c'est d'être réhabilité dans le monde du sens, dans le monde de la vie, quoi.
Merci Xavier Emmanuelli. On se retrouve demain soir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Lenné avec Xavier Emmanuelli. À voix nue, réalisation Clotilde Pivin, prise de son Frédéric Kérou, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.